se reconnaît un écologiste.
Les quotas de thon rouge.
Les OGM aujourd'hui ne servent à rien.
Il y a urgence à agir pour sauver la planète.
CO2.
Sans produits chimiques.
Mon amour.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils sont 5 ans.
Denis Chessou.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver avec un environnement, une écologie absolument en pleine forme. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui à la technique, il y a Clément Vuillet et Gilles Gaillard. Et assisté de Stéphane Combes, c'est Christophe Imbert, oui, toujours lui, qui réalise « CO2 mon amour ». Alors vous êtes peut-être en voiture, puisqu'il faut rentrer, rentrons, chasser, croisons. Après la fournaise des plages, brûlons l'asphalte de notre transhumance qui nous ramène vers nos bergeries urbaines. Et oui, encore un petit coup de soleil, allez sur le bras gauche. Ah bah oui, on met pas la clim, hein. J'ai encore besoin d'air, du souffle chaud de l'aventure avant d'allumer la cheminée avec la feuille d'impôt qui nous attend. Alors côté info, bah c'est normal, hein, c'est à la fois cata et espoir. Un été qui brûle ses derniers feux, le Portugal en flammes. En Californie, l'incendie ravage des milliers d'hectares et menace les séquoias géants, donc de ce parc national que vous connaissez, du Yosemite. Séquoias qui sont parmi les plus grands, les plus anciens organismes vivants peuplant notre Terre. L'incendie donc s'étend sur une superficie équivalente à celle de la ville de Chicago, comme pour montrer que les États-Unis restent en toutes circonstances enclins à la démesure. Du côté d'Alep, ira-t-on ou pas jusqu'à passer un savon à ceux qui usent de la chimie la plus meurtrière? Bah, pas sûr, car les tueurs en Syrie ne sont pas sans doute prêts d'en finir dans la sueur. Bref, ici ou là, ça chauffe. Mais les Indiens sont sympas. Ils nous offrent un rab d'été, donc on va en profiter. Et on va positiver, car toujours aussi jolie dans ses robes à fleurs, la jambe légère, la France a peu brûlé cette année. Il doit rester des griffes dans les maquis, les paysages sont jardinés, il y a des jardins solidaires et encore du nectar millésimé pour les abeilles. Dans le fond de nos valises, nous emportons des senteurs marines, du thym, nous y reviendrons, du romarin. Et peut-être émerveillés d'avoir traversé tant de paysages superbes, nous pourrions être tentés de pousser la porte de quelques associations de protection de l'environnement et de les soutenir, qui sait? Parce que finalement, l'homme positivement moderne voit bien qu'il y a mieux à faire que de se résigner à pousser son caddie et qu'exploiter la terre pour la laisser dans un état de chaussettes trouées n'a aucun sens, pendant que d'autres veulent s'éclater en jet ski jusqu'à la fin du thé des temps sur une mer vide. Et bien chacun fait bien ce qu'il veut. Nous, on dit, regardez comme ça bouge, comme ça remue partout, car il est là sous nos yeux le laboratoire du monde de demain. Donc croyons dans les incroyables solutions à explorer pour bousculer donc ce vieux monde. On va montrer que l'écologie n'est pas un truc cyniste, moralisateur et punitif, pas du tout. Décrypter, comprendre, sentir surtout les signaux faibles qui émergent, c'est ça qui est intéressant. Sentir ce monde riche en nouvelles solidarités et en bonne humeur. D'accord, ça va prendre du temps, ça va pas se faire en 5 minutes, on le sait. Utopie que tout cela, eh ben c'est à voir. Bonne rentrée à tous. La diversité étant la règle de l'écologie, vous savez que nous l'appliquons régulièrement à cette émission. Et donc, différents sujets, je vous ai parlé du thym, ce qui va nous faire une espèce de petit glissement de vos vacances jusqu'à notre quotidien aujourd'hui. Donc on va revenir sur le thym, on va découvrir cette plante. Nous irons donc dans les Hautes-Pyrénées saluer la mémoire de Robert Arnault. Et puis il y a donc cette actualité qui est un petit peu disparate. Et bah, Frédéric Danhué est avec nous, qui intervient régulièrement dans cette émission, ingénieur en écologie, auteur de nombreux ouvrages. Bonjour Frédéric Danhué.
Bonjour Denis Chessou.
Alors chef Frédéric Danhué, bon, on va pas revenir sur ce qui s'est passé au tout début juillet. L'émission s'était arrêtée, on sait que Delphine Bateau a été débarqué début juillet. Troisième ministre de l'Environnement en 13 mois. Hein, qui dira que cela ne bouge pas dans ce domaine? Voilà, je ne sais pas si c'est la définition de l'écologie en mouvement. Mais tenez, il y a une information très intéressante qu'on a entendue d'ailleurs, qui vient des échos au départ, sur nos fameux téléphones portables. Bon, on sait que l'éclairage représente entre 12 et 13% de notre consommation d'électricité, que les appareils en veille, c'est à peu près 10%. Mais les portables, on se dit bien que ça bouffe de l'énergie, mais comment, sous quelle forme?
Alors, c'est une étude fascinante, publiée par un cabinet de conseil américain qui s'appelle le Digital Power Group. Je traduis en français le nom de cette étude. C'est en gros l'Internet, l'économie Internet démarre, vit sur le charbon. Voilà, ça veut tout dire. Ils ont analysé deux choses. Un, ce qu'il en coûte en termes d'énergie et de dollars de brancher son téléphone pour le recharger. C'est rien. À l'année, c'est rien du tout. C'est quelques centimes d'euros.
Après, ils ont on dira peut-être un peu plus, mais enfin, en tout cas, ce n'est pas énorme.
Voilà, ce n'est pas énorme. En appel de puissance, ce n'est pas grand-chose. Par contre, qu'est-ce qu'il en coûte quand on utilise ce portable, de télécharger un film, de télécharger de la vidéo, de consulter une carte, de faire ce qu'on fait tous avec un smartphone. Oui. Eh bien, il en coûte un frigo. Oui. Un smartphone à l'année, c'est la consommation en kilowattheure d'un frigo, c'est-à-dire à peu près 330 kilowattheures. Et tous les smartphones et toutes les tablettes du monde réunis consomment 1500 térawattheures. La production d'électricité nucléaire en France est de 600 térawattheures. 1500 térawattheures, c'est 10% de la production mondiale d'électricité. C'est la production réunie de l'Allemagne et du Japon. C'est à peu près ce que le monde entier consommait en éclairage urbain en 1985. C'est 50% de plus c'est 50% d'énergie en plus que ce que tous les avions du monde consomment chaque jour. Ou si vous voulez, si l'économie Internet, les data centers, parce que c'est eux qui creusent ce budget énergétique, si cette économie Internet était un pays, ce pays serait au niveau de la consommation entre le Japon et l'Inde.
D'accord. Vous voyez ? Et comme aujourd'hui, quand même, une grande partie, la majorité donc, de cette électricité provient du charbon, eh bien, c'est-à-dire qu'il y a encore un bel avenir pour le charbon. Et d'ailleurs, on le voit avec des grands groupes aussi américains.
Mais oui, savez-vous que le groupe, dans les groupes informatiques, donc dans cette étude, on a un classement des groupes informatiques en fonction de leur dépendance au charbon. Le moins dépendant, c'est Dell, le plus dépendant est de très loin, c'est Apple. Mmh. Donc derrière cette image, on en a souvent parlé dans cette émission d'économie qui, parce qu'elle est virtuelle, parce qu'elle utilise des beaux matériaux, ce sont des produits qui ne sont pas comme les usines, qui ne sont pas comme les produits chimiques, ce sont des produits a priori sains. Et qui en plus sont des véhicules de la culture. Et bien derrière ces produits, il y a une consommation énergétique invraisemblable, consommation qui augmente à mesure que nous augmentons ce qu'on appelle le streaming, c'est-à-dire la consultation en ligne de vidéos. Plusieurs études, notamment l'Université du Massachusetts, ont montré que juste regarder un film sur Internet pendant une heure et demie, voilà, regarder un film sur Internet consomme 78% d'énergie en plus et 100% émet 100% de carbone en plus que si vous aviez regardé chez vous le DVD que vous aviez acheté.
Bon, et en même temps, je veux dire que le coût est parti, je veux dire qu'on va pas se flageller les uns les autres. C'est aussi, je veux dire que tous ces réseaux sociaux sont quand même assez formidables, évidemment, capables du meilleur, mais du pire, mais aussi du meilleur.
Évidemment.
Donc voilà, une fois qu'on a ce constat-là, donc derrière tout ça, alors on peut constater aussi, ça c'est très intéressant, on peut faire un lien avec ce qui se passe en Allemagne, parce que là on est sur un effet pervers de la transition énergétique qui devient coûteuse et polluante. Il y a eu donc cet arrêt progressif des centrales nucléaires, plus une faiblesse des prix sur le marché des émissions de CO2. Et donc, ça veut dire que ça relance le charbon aussi.
Ah ben complètement. L'énergie d'avenir, ce n'est pas l'éolien, c'est le charbon. 45% de l'électricité allemande provient du charbon. Ce sera 50% l'an prochain, sans doute.
Même s'ils ont 23% d'électricité d'origine.
Bien sûr. Sauf que le moins cher aujourd'hui, c'est le charbon pour deux raisons. La première, c'est que les Américains s'adonnent largement au gaz de schiste et donc leur charbon, ils ne savent plus quoi en faire et donc ils l'exportent à bas prix. La deuxième raison, c'est, vous l'avez dit, Denis, c'est que ce marché du carbone qui n'a jamais été efficace, qui n'a jamais servi à rien, a fixé un prix aujourd'hui à la tonne de carbone qui est ridicule. Oui. Donc, ce n'est pas du tout incitatif à faire quelque chose. Résultat, aujourd'hui, en Europe, on ferme des usines à gaz, des usines de production d'électricité à gaz, parce qu'elles reviennent plus chères que les vieilles usines à charbon. Mais je reviens sur ce que vous avez dit. L'économie Internet, le virtuel, on le sait, c'est une consommation énergétique effrénée. Il faut le savoir. Hein. Mieux vaut acheter un Blu-ray ou un DVD que télécharger son film. Mais malgré tout, même en téléchargeant, il y a des espèces de technologies qui sont en train de se mettre en place, dites vertes évidemment, notamment dans les data centers, qui pourraient faire baisser la note de 30 à 65% selon les technologies utilisées. Mais c'est quand même une fuite en avant. Il faut juste avoir en tête que l'économie virtuelle est tout sauf une économie propre, en tout cas plus propre que l'économie basique industrielle que l'on connaît.
J'ai trouvé, mais ça c'est ce que vous disiez pour les portables, mais ça concerne que votre portable, donc c'est pas du tout la majorité de l'électricité, on va dire, qui est consommée. Une petite application qui s'appelle Just Defender, qui est gratuite. J'ai testé ça, ça fonctionne plutôt pas mal, donc vous la verrez sur le site de CO2 Mon Amour, si ça vous intéresse. Ben, ça vous permet, si vous voulez, de recharger votre merveilleux appareil tous les 2-3 jours au lieu de recharger tous les jours.
Donc, c'est bien.
Donc ça, voilà. Bon, mais c'est pas ça qui va révolutionner l'affaire et on a bien vu où était le lourd. Alors, quelqu'un qui vient d'un pays de charbon, c'est Jean-Marie Pell. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour à tous.
Voilà, je disais ça, hein, vous avez entendu ça. Vous qui n'avez pas de portable, de toute façon, vous êtes tranquille.
Je savais ça, mais je n'avais pas les chiffres. C'est très impressionnant ce qui vient d'être dit.
Bon, donc vous allez continuer à appeler
sur votre... Parce qu'on présente toujours les nouvelles technologies comme la solution ultime à tout, c'est évidemment pas vrai. Et ça, nous le savons depuis longtemps.
Bien, vous avez toujours votre téléphone fixe, c'est formidable. Alors, juste, pas faire une actualité d'été, loin de là, mais un ou deux petits points qui vous sont extrêmement chers, puisque nous savons que vous êtes un amoureux des OGM, Jean-Marie, et qu'est-ce que vous avez relevé?
J'ai suivi l'affaire des OGM, donc après l'étude publiée l'année dernière par Géric Serralini.
Oui, au combien décrié.
Oui, sur le maïs transgénique. Alors, j'ai vu que la Commission européenne, d'une part, et d'autre part, le ministère de l'Agriculture en France, se lance maintenant dans des études pour vérifier, effectivement, ce qui a été dit dans cette étude si controversée, mais aussi si importante. Alors, ça pose des questions. On est très content, naturellement, qu'on refasse des études sur la toxicité des OGM sur des rats qui reçoivent ces OGM pendant 2 ans, c'est-à-dire, en gros, pendant toute leur vie. C'est très heureux qu'on le fasse. Ce qui est moins heureux, c'est, petit un, qu'on ne fait pas d'études sur le Roundup. Et l'étude de Géric Serralini a montré la toxicologie spécifique du Roundup.
De la molécule qui est le glyphosate. Oui.
C'est surtout pas la molécule elle-même, mm-hmm. C'est surtout les excipients. Les molécules qu'on ajoute à la molécule de glyphosate et qui sont, eux, assez toxiques. Et la deuxième problématique, c'est que ces études vont être faites par ceux qui ont autorisé les OGM et qui ont terriblement critiqué Géric Serralini. Ah. Alors, comme ils ont, eux, autorisé l'OGM que Gilles-Éric a utilisé, eux ont donc, sur leur travail, fait une étude de 3 mois seulement sur les rats, et pas 2 ans. Alors, si, comme c'est probable, ils retrouvent les résultats que nous avons obtenus, ils devront se considérer comme désavoués, ce qui n'est pas évident. Et ce qui ne laisse pas penser à beaucoup de sérénité dans le débat.
En même temps, c'est le principe de la science. Hein.
C'est tout à fait. Voilà. C'est l'éternel problème des experts. Il faut des experts indépendants. C'est dur à trouver parce que les experts travaillent avec les entreprises qui sont dans leur domaine de spécialisation. Moi, je suis partisan, et je reprends ici une idée chère à Corinne Lepage, de controverses entre experts. Les experts des grands groupes industriels, et en face, il y a des experts indépendants qui pourraient être des experts mandatés par l'État. Tant qu'on n'a pas arrivé à résoudre ce problème, on est dans le compromis, on est dans le vague, on est dans les problèmes d'éthique, et ça n'est pas résolu.
Et alors, enfin, un petit mot, parce qu'en fait, cette étude de Gilles-Éric Serralini, qui avait été vérifiée, bien sûr, par ses pairs, est sortie dans une revue qui s'appelle Food and Chemical Toxicology. Et
oui.
Aujourd'hui, donc, qu'en est-il? Parce que vous avez pointé quelque chose d'intéressant.
Alors, il en est que cette étude a été effectivement publiée l'année dernière, qu'elle a reçu l'aval d'un grand nombre de scientifiques de haut niveau qui, eux, ne sont pas liés du tout à l'industrie et qui ont validé l'étude. Elle est donc parue. Elle a produit ce coup de pied dans la fourmilière que vous connaissez. Et bien, Monsanto a réussi à faire nommer comme rédacteur en chef adjoint de cette revue à quelqu'un qui a travaillé chez eux, qui a travaillé chez Monsanto. Donc se pose aussi le problème de l'objectivité des revues et de l'éthique en science. Et il est important de redire à ce propos que nous avons besoin de lanceurs d'alerte. Gilles-Éric a été un lanceur d'alerte. Alors une fois que l'alerte est lancée, après évidemment, il y a tous les intérêts qui sont en jeu qui se manifestent et il est extrêmement difficile d'arriver à des positions consensuelles. Moi, j'espère que les études qui vont être menées en France et au niveau européen nous permettront ensuite d'avoir un débat. Mais je redis, je l'ai dit plusieurs fois, que l'étude de Gilles Serralini est fondée. Je l'ai regardée de très très près, je l'ai suivie. Elle est fondée que malheureusement, avec le maïs OGM, il y a plus de rats qui meurent de tumeurs que lorsqu'on les nourrit avec un maïs normal.
On a vu les résultats. Jean-Marie, le pharmacien que vous êtes, le botaniste que vous êtes, adore le thym, je le sais. À mon avis, vous en avez très peu dans votre jardin. J'en ai très peu vu donc du côté de la Lorraine. Hein, c'est, voilà.
Oui.
J'ai plutôt vu des mirabelliers. Donc le thym, oui. Vous allez pouvoir écouter ce que nous raconte le professeur Henri Joyeux dessus. Juste avant de se quitter, les mirabelles cette année, c'est bon, Lorraine, ou parce que c'est toujours une année sur deux. Moi, quand je viens,
très,
c'est
très bon et en retard.
Bon, donc
il y a en gros 15 jours de retard.
Eh ben je...
Mais très bon parce que les deux derniers mois ensoleillés étaient essentiels pour les mirabelles, donc c'est une bonne année.
Eh bien, nous rejoindrons Jean-Marie Pelt d'ici une dizaine de jours. Voilà, le thym, c'est dans quelques instants et on poursuivra notre actualité avec Frédéric Don. Et j'espère que tout va bien pour vous.
La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouchou, de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant août, foi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Dis-moi, que faisiez-vous autant chaud, dit-elle à cette emprunteuse, nuit et jour, à tout venant, je chantais. Ne vous déplaise, vous chantiez, j'en suis fort aise. Et bien dansez, et bien dansez, maintenant. Il était une fois un espèce de canard avec un camembert qui ouvrait sa bouche avec un espèce de chien en bas de genre de renard, tu vois. Bon, et il lâche, le renard lâche, non, je ne me rappelle plus. Il lâche le camembert qui remonte avec un élastique. Chanté tout l'été, se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouchou, de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, chez la fourmi, sa voisine.
Et choisi par Thierry Dupin, homme de bon goût, c'était... Oui, oui, bah bien sûr, bah tiens, c'est la cigale. C'était donc San Severino, la cigale et la fourmi, qui va nous faire un glissement quand même sur le thym, mais comme vous réagissez très vite, et vous avez parfaitement raison aussi sur les mails, Frédéric, non, juste parce que quelqu'un nous dit, oui, mais c'est très bien, tout à l'heure vous avez dit qu'un DVD, un Blu-ray, tout ça, ça coûtait, enfin, ça coûtait en énergie moins que si je passais sur Internet. Et...
Si, on a tout mesuré à l'Université du Massachusetts, ça a tout mesuré. Depuis, en fait, on mesure la quantité d'énergie pour véhiculer un bit d'information. Voilà, ça c'est la théorie. On a tout mesuré, depuis l'emballage plastique jusqu'au bateau qui a transporté les DVD, jusqu'au cartonnage, tout a été mesuré, toute l'énergie a été mesurée, et au final...
Que le film soit bon ou pas bon, c'est pareil, ça change pas.
Non, ça change rien, que les acteurs soient bien payés. On s'en fout complètement. Mieux vaut acheter un DVD et un Blu-ray que de les streamer sur Internet en termes d'énergie et d'émissions de CO2.
Bon, écoutez, vous faites bien ce que vous voulez. Une petite bouffée de thym, ça vous dit ?
Ah oui, 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 oh, oui, oui, c'est bon le thym.
Thymus vulgaris, c'est mon petit nom. Eh oui, 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 c'est ça, c'est le thym. Je vous le disais, on va faire un glissement sans heure de vos vacances, si vous êtes là tranquillement, peut-être dans les bouchons d'ailleurs, en train de nous écouter en voiture, jusqu'à chez vous, parce que cette plante-là, vous l'avez évidemment côtoyée dans le sud-est, dans le sud-ouest, un petit peu partout, un petit peu moins si vous étiez à Zuidcote, et un homme va nous en parler. Il a écrit un ouvrage, on va en dire quelques mots, avec Guillaume Bouguet. Nous allons aller pas loin du côté de Montpellier, qui a été extrêmement prospère, avec un commerce fou du côté du XIIe siècle, où la matière première provenait de la Garrigue comme de l'Orient. Donc ça, c'est du côté de Montpellier, c'est là que très travail. Henri Joyeux, bonjour à vous, Henri Joyeux.
Bonjour, Denis Chessou.
Alors, vous avez écrit donc cet ouvrage qui s'appelle Le Thym et le Chirurgien. Là, je sais que vous êtes encore, vous, dans vos Pyrénées orientales. Si je vous lance sur le mot garrigue, qu'est-ce que cela évoque tout de suite chez vous?
Ah, ça évoque les senteurs, ça évoque le thym, ça évoque la sarriette, ça évoque le lapin, ça évoque les perdreaux, ça évoque toute mon enfance et en même temps, je dirais, tout ce qui est autour de Montpellier, autour du Languedoc-Roussillon dans nos garrigues et qui est absolument fabuleux pour la santé. Vous savez que je suis un homme de santé, très sensible à tout ce que la nature peut nous apporter. C'est ça la vraie écologie.
Et quand vous parlez pardonnez-moi, mais quand vous parlez justement de Montpellier, c'est bien de rappeler, moi j'ai découvert dans votre livre, que Montpellier c'était le mont des épices.
Et oui, alors on disait que c'était le mont des jeunes filles parce que toutes les filles qui passaient à Montpellier sur la place de la Comédie en sortaient beaucoup plus belles. Mmh. En réalité, la vraie histoire, c'était que le mont des épices, c'est que sur la hauteur de Montpellier, près de Notre-Dame-des-Tables, il n'y avait pas simplement des changeurs, il y avait des épicéires. Et ces épicéires, c'était des gens qui préparaient la thériaque de Montpellier. Il y avait 80 éléments dans la thériaque de Montpellier qui vous soignaient à la fois les hémorroïdes, la toux, les l'asthme et toutes les pathologies, je dirais, bénignes. Et là-dedans, il y avait le miel au thym. Et c'était le miel au thym de Narbonne. Car figurez-vous que les empereurs romains faisaient venir le miel de Narbonne parce qu'il était parfumé au thym. Et que ce thym et ce miel au thym, on s'en servait pour cicatriser, pour les pansements des blessés dans les guerres, etc. Et donc on est en train de retrouver les qualités, je dirais, santé de cette plante merveilleuse des garrigues du Languedoc-Roussillon.
C'est vraiment la numéro un parmi les plantes aromatiques et c'est donc le thym, une des plantes médicinales. Alors les qualités de santé du thym, donc quelles sont-elles?
Ça c'est intéressant parce que par exemple, vous êtes dans la garrigue et puis vous allez vous égratigner un peu, ça va saigner sur votre pauvre petit mollet. Eh bien vous prenez une toute petite branche de thym et c'est plein de vitamine K et de calcium et vous avez avec la vitamine K et le calcium de quoi faire coaguler votre petite hémorragie minable que vous avez sur votre mollet. Et vous êtes tout content parce que vous avez utilisé le thym. Et le thym va avoir des qualités extraordinaires comme antiseptique. Vous avez une salade, par exemple, dans votre frigidaire et vous ne voulez pas la manger aujourd'hui, mais demain ou après-demain. Eh bien, vous allez l'arroser de thym et elle va être protégée de l'oxydation,
donc
protégée
c'est un
du vieillissement.
Protecteur des aliments, mais ce que vous nous dites aussi, donc, c'est très bon pour nos...
Et pour nous aussi.
Voilà.
Pour nous aussi, anti-vieillissement, anti-Alzheimer. On nous promet 20 millions d'Alzheimer en Europe, mais moi, j'en veux pas de l'Alzheimer. Je vais me nourrir le matin d'une bonne tisane de thym, à la fois pour me réveiller, pour stimuler mes neurones, et en même temps, pour stimuler, je dirais, ma fibre cardiaque, grâce justement à ce calcium, à ce magnésium, à ces minéraux qui sont indispensables pour la fibre nerveuse, mais la fibre nerveuse du système nerveux central, mais aussi du système nerveux cardiaque, parce que n'oublions pas que notre cœur y bat sans que nous le sachions, mais que quand même il est animé par un système nerveux absolument prodigieux.
Ça stoppe aussi un certain nombre de débuts d'affection. Je me souviens quand on était minot dans le Tarn, on me donnait aussi à boire une infusion de thym si j'avais un début de rhume.
Oui. Bien sûr. Alors là, vous faites un gargarisme en plus. Vous y mettez un peu de miel et puis quand vous avez 18 ans, vous y ajoutez quelques gouttes de rhum, bien sûr.
Il ne
faut pas se laisser aller. Hein. Bon. Et là, vous guérissez. Vous n'avez pas besoin d'aller chez l'ORL, de prendre des antibiotiques. Par exemple, 1 kilo de miel de thym. Ça coûte combien? 30 euros. Avec ça, vous cicatrisez une plaie qui n'arrive pas à cicatriser et à nettoyer. Par contre, on vous propose un produit pour cicatriser qui coûte 350 euros le kilo et qui est remboursé par la Sécu. Et après, on est étonné de se retrouver en déficit au niveau de la Sécu. Malheureusement, nos ministres de la Santé connaissent que dalle. Ils feraient bien de venir nous demander conseil à nous qui sommes sur le terrain de la santé pour leur dire quels sont les bons produits pour la santé.
Je vois que vous êtes un homme tout à fait remonté et une fois de plus, Henri Joyeux, vous n'avez pas votre langue dans votre poche et vous n'avez pas non plus
absolument.
Mais vous avez du thym dans votre poche et ça, c'est drôlement bien.
Et ce matin, j'étais avec des amis de Marseille et ils ont eu droit à la tisane de thé. On vient de faire une grande balade dans les Pyrénées. Ils ont une forme éblouissante.
Il y a tout au long des marchés de Provence qui sentent le matin, la mer et le midi, des parfums de fenouil, melons et céleri. Avec par-ci, par-là, quelques gosses qui dansent.
Henri Joyeux. Alors d'un côté, vous êtes chirurgien, vous êtes cancérologue tout à fait renommé,
oui.
Et en même temps, ça ne vous empêche pas du tout de vous intéresser donc à ces plantes, c'est-à-dire de retrouver.
Je suis passionné.
Oui.
Absolument. Je suis un passionné de la nature, mais de la nature, si vous voulez, au service de la santé. C'est ça l'écologie humaine. C'est pas simplement de respecter les lapins. Moi, les lapins, je les aime quand ils ont mangé 30% de thym. Quand vous faites passer un lapin à la petite rôtissoire et qu'il a bouffé 30% de son alimentation, c'était du thym, je peux vous dire que c'est un régal. Vous mangez ça à genoux, vous comprenez ? Donc ça, ce sont des choses essentielles à la fois pour notre palais des saveurs. Vous savez qu'en Angleterre, il y a un palais avec une reine. Vous avez mangé dans ce pays déjà ?
Oui.
C'est effrayant.
Oui.
Alors que chez nous, entre nos deux oreilles, on a un palais avec 6 glandes salivaires, 400 à 600 glandes salivaires accessoires, le tout capable de fabriquer 1 litre 200 de salive, 1 litre de salive, si on mastique. Mmh. Et savez-vous que dans la salive, il y a des enzymes du goût, ce que les chiens et les animaux n'ont pas, parce qu'eux, ils bouffent, et le malheur, c'est que nous les imitons, nous mangeons comme des couillons, nous mangeons en avalant très vite, alors qu'il faudrait mastiquer, comme le disent les Allemands, 37 fois un morceau de viande, de poisson, de fruits ou de légumes, et là, véritablement goûter, parce que vous avez la salive qui est là, et vous êtes dans le bonheur de votre palais des saveurs.
Je sais que le thym apporte aussi un sommeil qui est tout à fait paisible. Vous avez parlé de ce rôle donc antioxydant protecteur des membranes cellulaires.
Absolument. Grâce au tryptophane, figurez-vous, un acide aminé que vous avez dans le thym et qui est le précurseur de la sérotonine qui vous fait faire un bon dodo. Vous n'avez pas besoin d'aller chez le pharmacien pour acheter des drogues parce que vous n'arrivez pas à dormir, parce que vous vous réveillez la nuit.
Tisane
vous
de
prenez
thym.
Et voilà, du thym et vous allez le prendre peut-être en le mettant un petit peu sur un petit biscuit avant de vous coucher. Vous y ajouterez un peu d'oméga choco, du chocolat avec des oméga 3. Mmh. Et là, c'est le bonheur. Et en même temps, vous mettez véritablement vos neurones au repos. Vous ne vous levez pas le matin avec une fibromyalgie, 8 heures de sommeil et vous vous levez crevé.
Quelles sont, Henri Joyeux, aussi les vertus du thym en aromathérapie ?
Il faut savoir que pour faire 1 kilo, par exemple, d'huile essentielle, c'est l'huile essentielle de thym, il vous faut quand même 250 kilos de thym. Alors on se dit, c'est cher. Oui, c'est cher, parce qu'évidemment, il faut le distiller, parce que c'est un grand travail. Et quand vous mettez, écoutez-moi bien, une goutte de thym sur votre gros orteil, 10 minutes plus tard, vous avez l'odeur du thym dans la bouche. C'est pas beau, ça ?
Ah. D'accord.
C'est pas beau.
Si, on va essayer, mais...
ceux qui ont une mauvaise haleine, vous leur dites, mettez sous la plante du pied 2 gouttes d'huile de thym, d'huile essentielle de thym, et vous allez avoir dans la bouche une atmosphère de thym comme si vous étiez dans la garrigue.
Aujourd'hui, Henri Joyeux, il y a encore des études qui se font sur le thym. Bon, ce n'est pas une plante,
alors,
évidemment, qui va soigner toutes les maladies, on a compris, mais où en est-on ?
Alors, il y a des études dans le cadre de la cancérologie, et en particulier, on fait des études in vitro pour l'instant, c'est-à-dire qu'on a des cultures de cellules, de cancer du sein, de la prostate, etc., du côlon, et on fait des études in vitro avec des huiles essentielles de thym. Et qu'est-ce qu'on a observé déjà ? Ça, c'est très intéressant. C'est ma collègue Anne-Marie Giraud-Robert à Aix-en-Provence qui l'a prouvé avec l'école de pharmacie de Marseille, que nous avons une meilleure protection, si vous voulez, des cellules saines par rapport aux cellules cancéreuses, c'est-à-dire on va permettre à la cellule cancéreuse de mourir plus tôt, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'apoptose, qui n'est pas le suicide d'une cellule, mais qui est l'arrêt de la vie normale. Par exemple, j'ai des cellules qui sont mes globules blancs, et bien mon globule blanc, il doit vivre 7 jours, au bout de 7 jours, il a fini la vie, il y en a un autre qui le remplace. S'il ne meurt pas, je peux faire une leucémie, parce que je vais avoir trop de globules blancs. Si j'ai une cellule de mon estomac qui doit vivre une semaine, qui se met à vivre 3 semaines, attention, ça va me faire un cancer à l'estomac. Eh bien, le thym, justement, est apoptotique, ça veut dire qu'il aide à arrêter la vie de la cellule d'une manière normale et à empêcher la cellule cancéreuse de se développer. C'est magnifique, magnifique.
Qu'est-ce qui vous plaît profondément, Henri Joyeux, dans ce petit buisson vert blanchâtre ou grisâtre ?
Alors, je crois que vous avez d'abord la couleur. Vous savez, quand il y a la petite fleur légèrement violette, légèrement bleue qui apparaît et que vous approchez votre nez de cette fleur, vous avez le thym qui exhale. Et quelque chose qui est très important, c'est que figurez-vous que le premier signe de l'Alzheimer ou du Parkinson, et ça les neurologues n'osent pas le dire parce qu'ils ont peur d'avoir trop de monde dans leur consultation, c'est quoi? C'est l'anosmie. Et l'anosmie, c'est quoi? C'est la perte de l'odorat. Alors, je vous raconte une petite anecdote amusante. J'étais à Lormes-Minervois et je rencontrais des personnes âgées de maisons de retraite. Il y avait beaucoup de monde et je leur raconte qu'il est très important de stimuler son odorat pour reculer l'Alzheimer ou ne pas avoir l'Alzheimer et le Parkinson. Et le lendemain, on m'appelle pour me dire « Ah, ils sont très contents, figurez-vous qu'il fait très beau là-bas » et tous les vieux sont dans la garrigue à genoux en train de renifler le romarin et le thym. Car la partie de notre cerveau, figurez-vous, qui est en relation avec l'extérieur, c'est d'abord la partie haute du nez qui nous permet de savoir qu'une rose bio, elle exhale la rose et que la rose non bio, elle exhale que dalle. Et que le thym, justement, est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a 7 chémotypes de thym. 7 chémotypes, ça veut dire des formules chimiques, mais surtout des odeurs différentes. Et ça, c'est très important. Et c'est difficile de distinguer entre les 7 chémotypes de thym, le linalol, le thuyanol, le carvacrol, etc. Et donc, nous sommes en train de construire des petits sachets de thym pour les personnes âgées, pour les aider à stimuler leur odorat, pour reculer l'Alzheimer et faire que, eh ben, ils soient en bonne santé, heureux et sans déprime, vous voyez.
Merci beaucoup, Henri Joyeux. Puis, qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter en altitude? Il n'y a peut-être pas forcément le même thym que dans la garrigue, là où vous êtes. Hein,
mais... Alors ici, il n'y a pas du thym, mais il y a quand même du serpolé. Oui. En Cerdagne, il y a du serpolé qui est un cousin du thym. Eh ben, moi, je me contente du cousin du thym, mais on en a trouvé quand même au marché. Et donc, on en a suffisamment pour faire de bonnes tisanes tous les jours.
Voici pour 100 francs du thym de la garrigue, un peu de safran et un kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un bon plateau de pêche ou bien d'abricot, voici l'estragon.
Le thym et les chirurgiens Henri Joyeux et Guillaume Bouguet aux éditions du Rocher, dont le problème c'est d'arriver à l'interrompre, voyez cet homme-là, mais c'est un homme qui est donc tout à fait passionné. Frédéric Dant est toujours avec nous, si vous prenez l'émission en cours, et bien donc nous saupoudrons cette émission d'actualités diverses et variées. Petite réaction sur le thym.
Bah écoutez, je suis allé courir, mettre mes pieds dans une bassine de thym et j'ai meilleure haleine, donc ma vie a changé. Non, Montpellier, le thym, et à Montpellier, le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, grand laboratoire français, travaille sur le thym. Figurez-vous que le thym à Montpellier, c'est 6 essences différentes. Il y en a 2 qui sont plutôt chaudes, donc qui aiment plutôt les milieux chauds, et 4 qui aiment plutôt les milieux froids. Bien, ils sont aperçus que les deux essences, dites phénoliques qui aiment plutôt les milieux chauds, sont en train d'empiéter sur les 4 qui sont plutôt en altitude ou plus au nord. Autrement dit, le thym profitant du changement climatique est en train, enfin les variétés de thym plutôt chaudes profitant du changement climatique sont en train de remonter en altitude et de remonter vers le nord. Ce qui n'est pas surprenant en soi, hein, vu qu'on sait notamment dans cette émission que les arbres remontent vers le nord, les arbres du sud remontent vers le nord. Ce qui est étonnant et ce qui interroge beaucoup les chercheurs, c'est que ça s'est fait très rapidement, c'est-à-dire en 40 ans, et sur une échelle d'une dizaine de kilomètres carrés qui est assez importante. Et donc, est-ce qu'il y aurait un processus évolutif ultra rapide là-dedans? La question est posée.
Une petite actualité qui nous intéresse bien. Là aussi, on va rester dans les pays chauds, peut-être avec un petit peu moins de thym que dans la garrigue. On se rend compte qu'il y a une crise énergétique dans certains pays arabes. Racontez-nous.
Eh oui, c'est étonnant. Ils ont la main sur le robinet à énergie et pourtant, de l'énergie, ils n'en ont pas tant que ça. Dans les pays arabes, dans la péninsule arabique en tout cas, il y a des coupures d'électricité de plus en plus fréquentes. Je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. C'est la consommation d'électricité qui augmente le plus, beaucoup plus vite que la consommation d'énergie, en particulier dans les pays arabes.
Et effectivement, si on fabrique des stations de ski alors qu'il fait 40 ou 45 dehors, ça doit consommer un peu d'énergie.
Exactement, et l'air climatisé, etc., etc. Donc ces pays-là, tous ces pays-là ont un problème d'approvisionnement énergétique. Ils consomment beaucoup plus que ce qu'ils produisent, et la majeure partie de ce qu'ils produisent est exporté. Donc c'est quand même surprenant. Si vous voulez, ces pays-là ont consommé en 20 ans 10 fois plus d'énergie que nous, in fine. c'est, enfin voilà, la surconsommation énergétique, on la voit là dans des pays qui apparemment, a priori, devraient en être garantis, hein, des problèmes d'approvisionnement énergétique.
Il n'y a pas exactement de programme d'économie d'énergie.
Rien, il n'y a strictement aucun programme et c'est assez embêtant pour eux. Pour fixer les idées et pour résumer la situation, le mode de vie des pays arabes, qui est un mode de vie de surconsommation énergétique, nécessite pour Bahreïn et Oman un baril à 120 $ ou pour le Qatar un baril à 50 $. Donc, le niveau auquel nous achetons le prix du baril leur permet de... enfin, achète la paix sociale dans ces pays-là. Voilà. Et cette paix sociale, elle est gagée sur la consommation énergétique. Donc, tout est lié à la fois les questions énergétiques, les questions d'environnement et au final, les questions géopolitiques. Et on le voit en ce moment avec la Syrie.
On va revenir en France dans quelques instants. On rend hommage à Robert Arnault. Je vous emmène dans un très joli lieu qui s'appelle le Val d'Azun, juste après Messia.
À l'autre bout de toi, à l'autre bout de mes tropiques, frappé trois fois, une fois la porte claquée, une fois nos corps pris au piège, aucune issue de secours, nos mains sur le plancher, chargées de retenir ce qu'il nous reste à faire, chargées de saisir les parcelles des terres, l'amour empoisonné, le grand ménage, les romans printaniers. Moi de passage, toi sans passer, allez, allez, à l'autre bout de toi. Des jours meilleurs, des jours d'hiver, comme une ode à la nuit, comme une audace, une délivrance, une folie ordinaire, un facteur chance, comme un rideau de pluie, une connivence. Tu me ravis comme un courant d'air pur. À mes visites de courtoisie, je respire en tes murs. Nous trinquons à nos tragédies, comme un rideau de pluie, à nos désirs impurs. Quand je te sais sans fond, quand je te vois sans vie, aller jusqu'au bout de l'asphyxie. Un autre bout de toi, un autre bout de notre pic, frappé cette fois contre des portes fermées, cette fois des corps qu'on assiège, sans un seul cri de secours. Mes yeux sur le plancher, chargés de souvenirs, ce qu'il nous reste à terre, sommés de soutenir, un regard évité, le vent soufflant les verres, le grand manège.
Elle nous parle d'aller jusqu'au bout de l'asphyxie. On va peut-être pas y aller quand même. Hein. Donc c'était Messia sur France Inter, Tropique, dans notre playlist. Je vous propose de retrouver maintenant un homme qui est parti sur la pointe des pieds, très discrètement, le 1er août de cette année, et qui était un grand homme de radio.
Je trouve que les montagnes pyrénéennes, les nôtres en tout cas, ce qu'on a autour de nous en ce moment, ce sont des montagnes féminines.
Oui, elles ne sont pas écrasantes, c'est vrai.
Elles ne sont pas écrasantes.
Je cherche pas à dominer.
Elles sont riantes, tu ne te sens pas oppressé par la masse. Et ça, c'est extraordinaire.
Alors on a des nuages là aussi donc qui jouent tranquillement et qui se disent qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais travailler un orage ou pas là?
Ouais. Il y a des vieux encore qui savent te prédire le temps, ils n'ont pas besoin de la météo.
Ah non, ils font baromètre quoi.
Ah oui, moi j'avais un voisin, il regardait le ciel, il regardait les nuages, il regardait la fumée de la cheminée. Et il te disait la pluie dans tant d'heures. Et ça marchait.
Absolument. Et oui, cette voix-là, c'était celle de Robert Arnault que vous avez pu écouter à la fois il y a très longtemps dans L'Oreille en coin, dans Chronique sauvage, dans Histoire possible et impossible sur France Inter, et puis qui, dès les années 60, a attrapé en fait le virus de l'Afrique. Il a sillonné tout ce continent en passant parfois jusqu'à 6 mois, et c'était un des premiers à collecter, on va dire, les traditions orales, à effectuer de très nombreux reportages radiophoniques. Et puis il aimait véritablement la radio, qui disait que c'est un art qui pouvait être aussi plus fort, que enfin, le son pouvait être parfois supérieur à l'image, pas tout le temps bien évidemment, mais c'était ça, quoi. Donc beaucoup de lettres de noblesse ont été apportées à la radio par Robert Arnault. Et là on va le retrouver, c'était il y a moins d'une dizaine d'années, c'était chez lui dans le Val d'Azun. Alors nous sommes dans les Hautes-Pyrénées. Le Val d'Azun, en fait, c'est les premiers visiteurs qui s'aventurèrent dans les Pyrénées au 19e siècle le qualifièrent d'Éden des Pyrénées. Donc on n'est pas très loin d'Argelès-Gazoste, on est au pied du Soulor. Le Soulor, c'est le col avec l'Aubisque, donc qui capte le soleil, qui capte la chaleur. Et nous sommes dans une très belle vallée, très large. C'est là que Robert était originaire. Donc on va retrouver ce raconteur du monde chez lui dans les Hautes-Pyrénées avec ce Val de Lumière qui est le Val d'Azun.
Dans les nuages, car on est au-dessus des nuages là. Tu as la vallée qui plonge et qui descend sur Argelès, sur Lourdes. Mais alors surtout, c'est que tout ça a l'air d'être verrouillé par ceci que nous avons devant nous, qui est le pic de Pan.
Et ça, c'est la clé.
Alors, regarde ce pic de Pan. Le sommet de ce pic de Pan, c'est un château en ruine.
C'est vrai.
C'est une sorte de chevelure de rocaille, un château en ruine. Et selon les heures du jour, tu vois vivre ce château. Dans ce roman des Corneilles Blanches, le vieux le centenaire, tous les matins, venait regarder le lever du soleil en posant son cul sur cette pierre, ici, et il attendait le soleil.
Le rayon vert.
Car le soleil se lève juste là, derrière les ruines de ce château de rochers. Et il regardait, et il attendait. Il faisait encore nuit, et il attendait que le noir de la nuit soit un peu moins noir. Car il faut savoir attendre, il faut savoir voir quand le noir est moins noir. Et puis que l'aube commence à prendre son souffle. Et puis brusquement, derrière ce rocher que tu vois là, s'est levée une sorte de phare de lueur, et une boule rouge sortait comme un four, comme un pain qui sort du four. Le soleil levant ici, c'est une carte postale à laquelle on ne peut croire.
Alors le Val d'Azun, c'est quoi? C'est le Val d'Azur? Qu'est-ce que c'est?
Oui. C'est un val de clarté. Quand on le compare à d'autres vallées. Tiens, si tu tournes ta tête à droite, tu vois la vallée d'Estaing. Regarde cette vallée comme elle est encaissée. Ce n'est pas une critique, hein, je l'aime beaucoup. Mais c'est un V, un véritable V, très très encaissé. Regarde là. Tu as l'impression que tu es dans une
là.
Vallée italienne. Et regarde toutes ces maisons à perte de vue un peu partout. Car le village ici, à Reims, c'est bien sûr ces 400 habitants. Mais regarde tout ce qu'il y a, ce qu'on appelle les écarts.
Qu'est-ce que c'est, les écarts?
Ben, les écarts, ce sont toutes ces fermes qui sont
un
peu
partout. Les petits hameaux accrochés, bien sûr.
Et qui représentent des heures si tu veux en faire le tour. Eh bien, le facteur, autrefois, moi je l'ai connu, à cheval, faisait les écarts. Alors, il partait évidemment à 8 h le matin, il rentrait à 8 h le soir. Et souvent, dans un état.
Évidemment, il fallait goûter à tout.
Et oui, nous aussi d'ailleurs, on y va au sac.
Oui. Mais il n'y a que le cheval qui connaissait la route, donc de toute façon. Après,
il lui arrivait effectivement de ramener le facteur.
Oui, ça c'est un grand classique. Ça. Ouais. Alors quelques lézardes évidemment laissées par l'homme, c'est normal, c'est-à-dire c'est l'hydroélectricité.
Quelques grosses descentes comme ça qu'on voit, mais enfin on ne peut pas dire que le paysage soit très abîmé. Je trouve même que dans ce domaine, l'effort a été fait par EDF, que l'on doit saluer, jusqu'à des détails qui quand même ont leur importance. Nous avons un village qui avait un défaut, c'était comme dans tous les villages, les pylônes électriques, téléphones, etc. Oui, etc. Oui. Eh bien, depuis quelques mois,
on a enterré.
Tu ne verras plus un fil, ni de téléphone, ni de quoi que ce soit. C'est qu'effectivement, pendant très longtemps, EDF a travaillé à faire des barrages là au-dessus. Il y a eu une succession de barrages. Ouais. Et en échange, quand même, a financé beaucoup de choses. Quand le parc national a été créé, pendant très longtemps, les habitants d'ici, dont moi d'ailleurs, il ne faut pas le dire, on a été très réticents.
Oui.
J'ai été de ceux qui ont écrit sur la route au Goudron, non au parc national.
Non, mais qu'est-ce qui motive ? Parce que maintenant, avec le recul, je gère ce parc national des Pyrénées,
absolument.
Paraît complètement indispensable. Quoi.
Ben oui, ben bien entendu. Oui. Et finalement, ça n'a gêné personne. Oui. Par définition et historiquement, l'habitant d'ici, du Val d'Azun, ne veut pas de contrôle. Ça remonte au Moyen-Âge.
Oui.
Il y a eu des seigneurs dans tout le Val d'Azun, mais chaque village avait son autonomie. Ça n'était pas des serfs, c'était des hommes libres. Ils étaient libres, on devait la dîme au seigneur, mais il ne fallait pas qu'ils viennent nous emmerder.
Alors ici, Robert Arnaud, dans ce Val d'Azun, on était dans une terre à ours,
oui.
Mais on n'y est plus aujourd'hui.
Mais le dernier a disparu, a glissé vers les Basses-Pyrénées, vers la vallée d'Ossau, c'est-à-dire là-bas.
Hein ?
Le dernier chasseur est un de mes amis, Prosper Poulotte, qui a abattu le dernier ours, il y a une quarantaine d'années à peu près, parce que c'était encore la chasse, la tradition. Hein. L'ours était l'ennemi héréditaire du berger. Il l'est toujours, d'ailleurs. Ennemi héréditaire, comment dire, c'est une histoire d'amour aussi.
Il y a un côté « je t'aime, moi non plus ».
Absolument. Et quand l'ours aura disparu, car malheureusement, il n'en reste que quelques-uns, il va disparaître, ce sera quelque chose de très triste pour les bergers. Il manquera un personnage dans le décor. Et on le respecte comme un personnage, et on en a peur comme un personnage. Mais enfin, l'ours reste, par fierté, pour le berger, l'ennemi que l'on respecte. Je vais te dire, on peut le dire, puisque c'est de la radio, hein, on ne verra pas le coin. C'est mon coin à champignons.
Ah oui.
Sur ce pré en pente, et le bois qui commence à la lisière, ça c'est les girolles. C'est le bois girolles.
Je ne sais pas, on a un peu l'impression qu'ici, on est là pour apprivoiser le temps différemment.
Tout à fait. Moi, je n'ai pas de montre. Là,
ouais,
je l'ai mise parce que tu es arrivé. Ouais. Mais sinon, je n'ai pas de montre. Je me réveille avec le jour. Je me couche lorsque le jour se couche. Où as-tu mis le sac, Pierre ?
Pierre, il est là, Pierre.
Où as-tu mis le sac, les sacs, où ils sont ?
Bon, Robert, effectivement, comme tout le monde a faim. Hein, parce que...
regarde mon fils qui arrive avec les sacs de montagne en renaclant, parce qu'il commence à avoir la dalle.
Oui. Ah, qu'est-ce que c'est, sa pierre ? Dis-moi.
C'est comme des saucissons, mais il est tout mince.
Eh oui, tout petit. C'est gros comme un doigt, comme ça.
Ouais.
Et c'est de la saucisse sèche. Mais alors,
oula.
Avec du cochon. Hein.
Oui.
Alors ça, on te le vend au maître. Ou plus exactement, tu vois, ça fait des lacets, comme un petit boudin en lacets, et on te dit, vous en voulez combien d'allers et retours ? Tu vois, regarde, ça fait des allers et retours.
Bon, et
alors, je t'en donne un aller ou un aller et retour ?
Aller et retour.
Oh, ouais, tiens, bordi, tiens. Ce sont les paysans d'ici, de la vallée, qui ont passé des accords au Xe siècle avec les paysans de la vallée de Téna, qui est derrière. Ces accords s'appellent des lits et des passeries, c'est-à-dire des accords de paix et de concorde. Il y avait tellement de disputes pour des questions de troupeaux, de
bornage.
On a décidé que l'on passait des accords qui étaient renouvelables. Chaque fois, il y avait un acte extraordinaire. Les gens d'ici montaient jusqu'à ce qu'on... à la frontière là-haut, dans le creux que tu vois là-bas. Les habitants aragonais montaient de l'autre côté et venaient à jour fixe tous les ans renouveler cet accord sur une pierre et venaient signer l'accord des lits et des passeries. Autrement dit, si l'on réfléchit bien, le marché commun, il existe ici depuis le Xe siècle.
Clin d'œil à Robert Arnaud, donc, qui nous a quittés au mois d'août, qui faisait partie de cet art et de cette histoire radiophonique. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs grâce à Thomas Baumgartner, qui a sorti deux coffrets de 3 CD avec les rencontres possibles et impossibles pour l'un, aux éditions Frémo et Associés, et chez le même éditeur, Une Afrique en radio. Voilà, mais il restera toujours effectivement ces sons-là. Et puis cet homme-là, je crois, pour un certain nombre, nous a donné encore plus envie, on va dire, de faire de la radio. On va terminer toujours avec notre actualité, Frédéric Danhué. Et on va partir là cette fois-ci dans le passage du nord-est, c'est-à-dire que l'on va remonter évidemment au nord, qui devient très intéressant parce qu'il y a un essai en ce moment avec un cargo chinois.
Oui, un essai commercial. Alors le bateau s'appelle le Yongcheng, il est armé par la compagnie COSCO. C'est un joyeux petit cargo qui transporte 14 357 tonnes exactement de matières diverses, du thym et du romarin, sans doute, sûr, j'espère. J'ai vérifié tout à l'heure...
Radioactif, c'est bien Fukushima.
Absolument, absolument. J'ai vérifié tout à l'heure sa position, il est en mer de l'Aptef, au nord-est de la Sibérie. Il file un joyeux 13,9 nœuds, le commandant vous salue d'ailleurs, Denis.
Bien sûr.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce bateau donc, a quitté le 8 août le port chinois de Dalian. Il devrait arriver le 9 septembre à Rotterdam. Et il emprunte donc le passage du nord-est. C'est la première fois qu'un bateau commercial, avec une véritable idée, une politique d'ouverture d'une route commerciale, emprunte ce passage qui, même en été, est assez difficile parce qu'il y a toujours la menace de glace, raison pour laquelle la Chine a signé un accord avec la Russie pour que les brise-glaces nucléaires russes, qui sont loués quelque chose comme 400 000 dollars par jour, pour que ces brise-glaces surveillent les cargos chinois.
Alors c'est pas rien parce qu'en fait d'ici 2020, 5 à 15% du commerce maritime chinois pourrait transiter par cette route-là, donc essentiellement des porte-containers, et on imagine que ça fait quand même de sacrées économies.
Ça ferait 700 millions de dollars d'économies. Ça fait surtout entre 12 et 15 jours d'économies pour des bateaux qui normalement doivent passer par le sud, par les mers du sud, doivent passer par ou bien Panama ou le canal de Suez. Voilà, on gagne 15 jours. Alors pourquoi les Chinois voudraient-ils gagner 15 jours pour exporter leurs affaires chez nous? C'est parce que, si vous voulez, le différentiel de salaire entre eux et nous commence à s'atténuer parce qu'il y a une classe moyenne qui apparaît là-bas, parce que tout le monde ne veut plus forcément faire la petite main dans les usines chinoises. Donc ce différentiel diminuant, il faut gagner de l'argent ailleurs, il faut compenser ailleurs.
Et on compense le coût du transport.
Sur le coût du transport. Moyennant quoi? La fonte de la banquise, si elle continue, il n'y a aucune raison qu'elle s'arrête, va largement nourrir les excédents commerciaux chinois qui eux-mêmes leur permettent de dégager une trésorerie suffisante pour acheter à bon compte à peu près n'importe quoi, tout et n'importe quoi, des PME, des usines en Europe, et leur permettent d'exercer une pression considérable sur l'Europe, par exemple sur les panneaux photovoltaïques. Vous voyez, tout est lié. Et ça va plus loin que ça. La Chine, comme l'Angleterre au 19e, négocie avec les pays du pourtour arctique pour avoir des lieux d'avitaillement de ces navires un peu partout, que ce soit au Groenland, et du coup vous avez le port de Kirkenes qui est au nord, alors pas au Groenland, de la Norvège, pardon, au nord de la Norvège, donc ce port qui avait été déserté, qui est déserté par les bateaux russes, ils attendent tous l'arrivée des cargos chinois par le passage du nord-est. Ils applaudissent cette arrivée et donc ils applaudissent le réchauffement.
Ça va donc changer. À la fois, je dirais aussi peut-être une représentation que l'on peut avoir de ce qu'on appelle les peuples premiers. Oui. Et là, on va élargir ça donc aussi au Canada, donc les populations autochtones, parce que là aussi, ils attendent que c'est ce que vous disiez, qu'il y ait donc cette entre guillemets modernité qui arrive, parce qu'ils peuvent en tirer profit aussi.
Ils voient deux choses en fait. les peuples premiers voient à la fois, par exemple, au sud du Groenland, ils voient qu'on peut cultiver aujourd'hui ce qui n'était pas possible avant. On a des potagers maintenant au sud du Groenland.
Et quand qui on était le pays vert. Hein,
qui était
départ,
un pays vert au XIIe siècle.
Le nom.
Potager, il commence à y avoir une production conséquente qui donne l'idée à certains villages, en tout cas à certains mouvements politiques groenlandais, d'atteindre l'autonomie alimentaire qui serait pour eux le principal marchepied pour atteindre l'autonomie totale vis-à-vis du Danemark. Et donc le Conseil de l'Arctique s'est réuni le 15 mai, il est présidé par le Canada. Il a été dit, c'est la première fois, que l'objectif premier était maintenant le développement économique grâce au changement climatique qui rend exploitable des zones qui ne l'étaient pas, notamment des exploitations de mines d'or, diamant, de fer, de zinc ou pour Areva, des mines d'uranium au Groenland, dans le Nunavut qui est au nord du Québec. Et les populations autochtones, contrairement à ce qu'on peut penser, applaudissent elles aussi parce qu'elles sont associées et c'est elles qui, a priori, devraient en bénéficier.
Merci beaucoup donc pour ce décryptage, Frédéric Noé. On vous retrouvera donc tout à fait régulièrement dans cette émission qui a été réalisée par Christophe Imbert, il faut bien le dire, assisté de Stéphane Combe. Merci à Clément Vuillet et Gilles Gaillard aujourd'hui donc à la technique. Le répondeur, tenez, nous avons ce petit son très intéressant.
Bonjour Céodé, mon amour. Bonjour Denis, bonjour à tous. Ici Michel-Marie, depuis Bure, mon amour. Bure, ce petit village entre Champagne et Bourgogne qui vit une bataille épique entre ceux qui veulent enfouir profondément les déchets poisons du nucléaire et toutes celles et ceux qui refusent et résistent face à cette folie environnementale, sanitaire, démocratique, éthique. Longue résistance, mais qui rallie de plus en plus de citoyens éveillés et de spécialistes. Mais résistance conviviale également, qui vous invite tout au long de ce week-end pour son 4e festival contre la grosse poubelle nucléaire de Bure. Le festival se déroule dans le village de Bonnet, à une poignée de kilomètres de Bure. En avant-première, deux projections débat de documentaires sur les déchets nucléaires, mais aussi de nombreux concerts, des numéros de cirque et des spectacles, des débats, des expositions, des ateliers, le tout à prix libre et avec restauration sur place. Le Festival de Bonnet vous attend et la résistance, elle, vous appelle pour remettre la raison à l'endroit. Merci à toutes et à tous.
Le numéro du répondeur 01 56 40 40 35. 01 56 40 40 35. Je vous retrouve avec plaisir pour l'Atu du Mont-Petit-Loup. Ce sera demain à 19h55. Dimanche 19h55 après les petits bateaux. Demain 15h aussi. Vivre avec les bêtes avec Alain Bougrain-Dubourg. Podcast, vous connaissez. Vous pouvez réécouter l'émission sans aucun problème. Et dans quelques instants, nouveau, pas rendez-vous, mais nouvel horaire pour Emmanuel Quérade et sa librairie francophone. France Inter, il est 15h.